C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est un duo célèbre. Après Starsky et Hutch, il y a Philippe Noni et Diego Arrabal.
Avec des cheveux blancs.
Oui, c'est ça. Ils ont bien vieilli. Pour, bien sûr, notre moment littéraire de la semaine. On rigole, mais on va parler d'un sujet qui n'est pas.
Qui est grave.
Qui est un sujet grave, tout à fait.
Vrai, puisqu'on va parler de la mort.
Tout à fait. Bonjour Philippe Cybercazé. Bonjour Diego Arrabal.
Bonjour les deux Philippe.
Qui n'a jamais été touché par la perte d'un être cher? Qui n'a jamais connu la douloureuse et terrible épreuve du deuil? Pour celles et ceux qui vont se reconnaître dans ces deux questions, il est sans doute encore temps de prêter l'oreille et d'écouter l'interview qui va suivre. L'auteur a vécu la perte de son petit frère, et l'écriture a été un véhicule pour construire son deuil. Elle a écrit un témoignage émouvant, touchant, qui s'adresse à chacun et chacune d'entre nous. Navigation de nuit, publié chez Pierre Tecky, éditeur. Bonjour Amélie Roulier.
Bonjour.
Vous êtes donc l'auteur de Navigation de nuit, publié donc par Pierre Tecky, éditeur. Merci d'avoir accepté donc notre invitation, tout d'abord sur les ondes de présence. Je vais lire la quatrième de couverture de votre ouvrage. Et puis on va passer en suivant aux questions. En décembre 2015, Amélie perd Dominique, l'un de ses petits frères, dans un accident familial. Le choc a l'effet d'une vague déferlante qui surgit au beau milieu d'une vie de jeune professionnel bien remplie. Malgré un entourage présent, une famille nombreuse, sa vie prend la tournure d'une traversée en solitaire imposée. Du creux de la tempête, au retour au port, le récit suit la jeune adulte endeuillée, aînée d'une fratrie amputée, dans son quotidien et sa quête de paix. Elle y partage ses combats en offrant au lecteur les clés de ce qui a contribué à la remettre debout. La parole d'une aînée, qui rappelle que les frères et sœurs sont souvent les grands oubliés dans les deuils familiaux. Une réflexion sur le deuil des jeunes dans une société où la mort est un sujet tabou. Amélie Roulier, vous n'aviez jamais pris la plume avant la perte tragique de votre frère?
Jamais.
D'accord. Quel a été votre moteur pour choisir le chemin des mots et nous offrir, donc Philippe Cybercazé le disait tout à l'heure, ce très beau témoignage en nous embarquant dans votre bateau, donc qui s'appelle votre témoignage, Navigation de nuit, Pierre Tecky, éditeur. Ça a été quoi ce moteur pour choisir le chemin des mots?
Je pense que y a eu plusieurs choses, mais les mots, ça se. Déjà, on prend le temps qu'il faut pour les écrire. Ça oblige à un chemin de réflexion, à un chemin de trouver les justes mots. Et puis, ça permet aussi aux lecteurs de prendre ce qu'ils ont besoin de prendre, d'y revenir. Après, c'est sorti un peu de nulle part pour moi, même si je viens d'une famille où certains ont des vrais talents d'écrivain. J'ai une intuition, je me suis dit peut-être que ma manière de participer à à lever ce tabou du deuil, c'est par là que ça doit passer, pour moi en tout cas. D'autres font des films ou vont utiliser d'autres médias, mais pour moi ça a été vraiment l'écriture qui s'est imposée au début de cette aventure pour moi.
Vous écrivez en page 14 de votre ouvrage, donc de votre témoignage, Navigation de nuit, il a publié donc chez Tecky Éditeur, vous écrivez ces mots, je vous cite. Ce journal de bord est le mien, celui d'une jeune femme et aînée de 6 enfants qui a perdu son plus jeune frère. Il n'est pas celui de mes parents, ni de l'un des membres de notre grande famille ou celui des amis de Dominique. Chacun de son côté a vécu ou vit encore cette traversée. Son intimité, comme son chemin personnel face à ce drame, se doit d'être respectée. Enfin, je demande pardon à ceux qui pourraient souffrir en voyant dans mon expérience une provocation ou une violente atteinte à leur histoire personnelle, parce que dans leur tempête, les choses sont bien différentes. Comment on fait à un moment donné pour écrire effectivement ce témoignage? Parce que vous êtes consciente, on le voit là dans les mots que je viens de lire, qui sont les vôtres, qu'au moment où vous l'écrivez, vous vous dites en fait, il n'y a pas un deuil, il y a des deuils. il y a autant de deuils qu'il y a effectivement de personnes. Et c'est vrai que là, quand vous écrivez cela, ça veut dire que pour vous, la perte d'un être cher, elle n'est jamais vécue de la même façon par une fratrie.
Elle n'est jamais vécue par personne, en fait, de la même manière, que ce soit au sein de la fratrie ou plus largement, parce qu'on fait le deuil d'une relation qui est très singulière. C'est d'une personne à une autre personne, et le lien qu'on a avec notre petit frère, dans notre fratrie, pour citer nous, ben, il a été différent. On n'avait pas les mêmes âges quand il est né, on n'avait pas les mêmes relations. À chaque fois, c'est très singulier. Et en même temps, de l'extérieur, on pourrait imaginer que ce soit un peu équivalent, puisqu'on a reçu la même éducation, on a les mêmes parents, en tout cas dans notre situation, on a vécu ensemble, etc. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est vraiment que chacun arrive avec son histoire avec la personne, et puis où il en est dans la vie, ce qu'il a vécu dans sa vie, sa foi. Sa religion de manière plus large. Voilà, donc il y a quelque chose, y a quelque chose vraiment de très unique, même si aujourd'hui je peux le dire parce que je l'ai appris, entre guillemets, il y a des choses qui se ressemblent d'un deuil à un autre. Il y a des vécus qui peuvent se connecter, il y a des résonances entre les vécus de deuil, mais c'est toujours différent. Et c'est même toujours différent quand vous allez vivre, vous, la perte d'une personne puis d'une autre, ça peut être des deuils très différents, des réactions très différentes. Donc c'est
Vous,
important effectivement de le noter.
de votre côté, alors c'est ça qui est intéressant, moi je trouve, dans votre témoignage, vous comparez votre épreuve à une traversée en bateau, hein, d'où le titre Navigation de nuit. Vous avez un bandeau, donc en bas de page de votre roman, qui s'appelle Un chemin de consolation face au deuil, effectivement, d'un frère. Donc de votre côté, comme je le disais, vous comparez votre épreuve à une traversée en bateau avec ses tempêtes, ses doutes. Et la croyance, on le voit tout au long de votre témoignage, donc c'est un fil rouge, hein, qui est pour vous un support essentiel, même si vous avez des doutes, hein, qu'à un moment donné, on sent votre colère aussi, effectivement, par rapport à Dieu, de dire, mais pourquoi quelque part tu m'as enlevé mon petit frère, quoi. Et vous avez un doute quant à la perte, quant à cette perte-là. Qu'est-ce qui a changé chez vous avec le deuil, effectivement, de votre frère, et qu'est-ce qui a changé dans votre rapport à la religion?
Alors, je dirais que la première chose, c'est ça a renforcé ma foi en l'après. Alors, on dit la communion des saints quand on est catholique, mais voilà, le fait qu'on va retrouver, on est connecté aux gens qui sont décédés. Donc, ça vraiment, ça a renforcé ça chez moi. D'une certaine manière, ça a un peu enlevé ma peur de la mort. Je sais que voilà, quand ce sera mon tour, il y a une partie de ceux que j'aime qui sont déjà là-bas. Voilà, c'est bon, c'est difficile peut-être à comprendre, mais il y a ça. Et puis, ça a aussi beaucoup questionné ma foi. Effectivement, vous avez parlé de la colère, donc que j'évoque dans le livre. Pour moi, ça a épuré ma vision de Dieu, en fait, parce que quand on est confronté à l'épreuve, en fait, on est obligé de sortir des petits schémas un peu faciles de Dieu même. Ça vient questionner ça, en fait.
Ça vient
Ouais.
questionner un peu aussi, c'est ce que vous expliquez. On va parler un peu après de votre vie professionnelle. Hein, j'en parlais tout à l'heure, donc en exergue, hein, de ce que ça a orienté chez vous. Moi, ce que je voulais rappeler, avant de vous poser la prochaine question, c'est situer un peu ce qu'est le deuil. Le deuil, ce sont cinq étapes. La première étape, c'est le déni. Hein, c'est pas possible, ça n'a pas pu m'arriver, etc. La deuxième étape, c'est la colère. C'est mais pourquoi moi? Pourquoi ça a frappé mon petit frère? La troisième étape, c'est la négociation. Où on commence effectivement à essayer de combiner avec le réel pour pouvoir accepter ça. La quatrième étape, c'est la dépression, hein, où là vraiment donc on plonge. Et la cinquième étape, c'est celle effectivement où on construit quelque part l'absence de l'autre, donc, et c'est l'étape de l'acceptation. Vous écrivez dans votre témoignage, l'amitié nous offre cet espace qui permet de dire notre vulnérabilité. L'épreuve est un révélateur de la puissance ou de l'absence d'une réelle amitié. Dans le deuil, l'amitié pour vous, quelque part, c'est ce que vous dites dans votre témoignage, c'est un fanal qui vous a guidé dans l'obscurité. Surtout, quand j'ai lu cette phrase terrible sur votre site, qui parle effectivement des formations que vous êtes amené aujourd'hui à effectuer, vous avez une personne qui vous dit « tu as dû moins souffrir que ta mère ».
Oui, oui. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Je vais essayer d'y répondre intégralement. La première chose, les étapes que vous avez citées, c'est les étapes que Elisabeth Kubler-Ross avait modélisées,
tout à fait.
Voilà, on utilise aussi, moi j'utilise plus celles qui ont été décrites par Christophe Fauré, qui est un de nos contemporains, mais toujours.
Et qui sont ces étapes-là, celles-ci
c'est... Sont le, alors, la première étape, c'est le choc. Le choc et la sidération. La deuxième étape, ça va être la fuite-recherche. Donc, l'ambivalence, en fait, à la fois, on recherche à se connecter à la personne à travers plein de méthodes. Hein. Ça peut être en mettant ses habits, en respirant son parfum, en écoutant sa musique, en allant, pour certains, se connecter via des médiums. Ça, c'est la fuite et la recherche. Il y a la fuite aussi de la douleur. Et ensuite, on a une déstructuration et une restructuration qui sont deux mouvements de... la déstructuration, c'est la plongée en général dans quelque chose qui ressemble à une dépression, mais qui n'est pas une dépression. Je vais très très vite, hein, mais voilà, je donne quelques clés. Et qui va en fait être tout un chemin d'intégration de l'absence. Et puis la restructuration, c'est vraiment, au fur et à mesure, j'ai intégré... ce nouveau lien qui est d'une certaine manière en moi et qui va me permettre de reprendre peu à peu ma vie. Alors après, forcément, ces étapes, elles sont un peu à cheval les unes des autres. Hein. C'est pas linéaire comme on
l'a dit. C'est pas linéaire, oui, tout à fait.
Il y a beaucoup d'émotionnel, de tourbillons émotionnels là-dedans et puis il y a des vécus très différents en fonction du contexte, du lien avec la personne. On avait forcément quand on est veuf ou veuve, quand on est un enfant qui perd un parent, quand on perd un grand-parent, on a des impacts qui sont un peu différents. Et c'est vrai aussi pour le contexte initial. Ça, c'était pour la partie théorique. Concernant l'amitié, effectivement, ça a été... pour moi, ça a été vraiment un phare dans la nuit. Ces amis qui étaient là, qui n'ont pas changé, qui sont restés eux-mêmes et qui en même temps avaient conscience que voilà, c'était difficile pour moi, que je pouvais dire non, que j'étais pas assez forte aussi pour prendre certains engagements à certains moments, mais que j'étais quand même assez forte pour en prendre. Voilà, il y a plein de choses et effectivement, j'ai vécu comme beaucoup de gens ces amis qui disparaissent aussi parce que la douleur est trop compliquée à gérer, la souffrance est trop compliquée à gérer. Donc oui, vraiment, pour moi, ça a été, les épreuves de la vie sont vraiment des révélateurs de la puissance d'une amitié, c'est sûr.
Je voudrais qu'on dise deux mots, vous l'avez évoqué un peu à Amélie Roulier, hein, j'en parlais tout à l'heure, donc de votre vie professionnelle, hein, suite à la perte de votre frère, alors pas tout de suite, hein, on voit que ça fait partie effectivement de l'étape du deuil. Vous avez monté un organisme d'accompagnement au deuil intitulé Amélie Roulier, accompagnement du deuil. Donc pour préparer cette émission, hein, j'ai été voir sur votre site un peu tout ce que vous pouvez proposer, que j'ai trouvé réellement passionnant. Est-ce que vous, aujourd'hui, ça, le fait d'avoir monté Amélie Roulier Accompagnement du Deuil, donc cet organisme de formation et d'accompagnement, quelque part, je préférais plus dire organisme d'accompagnement que de formation, est-ce que c'est votre façon aujourd'hui de rendre aux autres l'expérience acquise avec le décès de votre frère et de leur éviter, alors, autant que faire se peut, hein, les écueils que vous avez rencontrés?
Je dirais oui et je dirais pas que. Parce que je pense qu'il y a un mouvement très naturel de vouloir aider les autres de la même manière qu'on a été aidé quand on vit un deuil. Mais ce n'est pas le chemin de tout le monde de faire ce choix. et tout le monde n'est pas n'a pas la capacité de le faire parce que c'est voilà, ça implique plein de choses derrière très concrètes hein, de l'entrepreneuriat, etc. Donc c'est loin d'être facile, mais effectivement c'est sûr que cette expérience, elle m'a donné un regard sur ce qui peut être vécu et une vraie conscience de l'émotion dans laquelle on peut vivre, des difficultés qu'on peut traverser, même si j'ai pas traversé toutes les difficultés. Voilà, c'est quelque chose qui est très incarné pour moi. J'ai effectivement pris beaucoup de temps parce que ça a été un cheminement long. Mais c'était déjà, j'avais un métier, je suis ingénieure et j'avais un métier qui me plaisait, dans lequel j'étais heureuse et j'apprenais plein de choses, donc j'avais pas envie au départ de quitter ça. Et puis il y avait aussi un point d'attention très important pour moi, c'est que on se soigne pas à travers les autres. Enfin, c'est un gros danger quand on va trop vite dans ce genre de démarche, c'est de se soigner à travers les autres. Et du coup, de rentrer dans une attitude où on impose à l'autre, même avec en toute bonne foi, mais on impose à l'autre des solutions qui sont pas les bonnes pour lui. On n'est pas dans l'écoute, on est en train dans une réparation de soi. Et ça, c'était vraiment un point rouge. Il n'était pas question pour moi de rentrer là-dedans. Donc, j'ai pris beaucoup de temps de réflexion, et effectivement j'ai fait ce choix au bout de 8 ans, voilà, d'aller me former vraiment professionnellement pour pouvoir proposer ce que je propose aujourd'hui, voilà, d'un point de vue professionnel.
Alors, sur votre site, j'ai repéré une chose, j'ai trouvé qu'il y avait c'était presque, je ne sais pas si c'était une coïncidence ou pas, vous organisez une rencontre sur le deuil rue Victor Hugo, le même Victor Hugo qui a justement écrit ce magnifique poème avec cet incipit « Demain des l'aube » qui concerne sa fille, hein, qu'il a perdue.
Oui.
Donc, vous vous rappelez « Demain des l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. Oui. » Et c'est cette rue où vous allez faire cette formation. C'était un hasard ?
Oui, c'est complètement un hasard. J'étais dans un endroit qui s'appelle les Petites Cantines, qui sont des lieux de retrouvailles. On cuisine ensemble et on déjeune ensemble, puis après, voilà, c'est un lieu aussi où se passent des rencontres de tout type. Il y en a plein en France. Et pour faire le lien, la personne qui a monté ce tiers-lieu, on va dire ça comme ça, s'appelle Diane Dupré-Latour, et c'est une personne qui a été aussi confrontée au deuil. Donc voilà, tout est un peu lié, je pense. Je pense que cette solitude, effectivement, de la personne endeuillée, elle permet à certains de se lancer dans des actions pour lutter contre ça. Et c'est beau de voir ça.
Et je parlais de ça parce que bon, c'est vrai que personnellement, hein, je considère que ce poème de Victor Hugo est certainement un des plus beaux, sinon pour moi le plus beau poème de la littérature française. Et c'est un poème sur le deuil. C'est un poème sur le deuil, voilà, hein, puisque il faut remettre les circonstances. Hein, lorsque Victor Hugo écrit ce poème, il est en exil, donc à Jersey, hein, étant donné que Napoléon III est au pouvoir. Il revient en France clandestinement, donc avec le risque de se faire arrêter, pour aller sur la tombe de sa fille. Et il écrit ce poème, voilà, sur le deuil, qui est absolument splendide. Et c'est vrai que quand j'ai vu que vous organisiez cette formation rue Victor Hugo, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ça. Philippe Subercaz, vous avez une question ?
Oui, une question. Vous faites de la formation ou de l'accompagnement, comme dit Philippe Nonni. Quel est le caractère des personnes qui viennent ? Est-ce que majoritairement, ce sont des gens qui ont conseillé une personne qui est dans le deuil de venir vous rencontrer ou suivre votre accompagnement pour les aider. Et quelle est la partie de cette catégorie-là, ou plutôt des gens qui veulent s'en sortir par eux-mêmes et qui disent « je vais essayer de m'en sortir, je vais essayer de trouver de l'aide, je vais essayer de trouver de l'apaisement en venant vous voir ». Quelle est cette partie ? Est-ce que c'est plutôt on conseille aux gens de venir vous voir, ou plutôt c'est personnel, on vient pour essayer de s'en sortir ?
Alors, ça fait quelques mois que je suis sur cette partie deuil, parce que je me suis formée l'année dernière.
Oui.
Donc pour le moment, c'est plutôt des gens qui viennent me voir directement parce qu'ils ont eu l'information, plutôt que des gens qui sont redirigés vers moi. Mais ça va venir. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Il y a beaucoup de femmes, pour rien vous cacher, parce que beaucoup d'hommes ont du mal à passer la porte. Je pense que voilà, c'est pas forcément les mêmes besoins en termes d'accompagnement et de parole aussi, peut-être. Mais après, voilà, j'ai des
les gens qui... On n'accompagne pas un deuil pareil pour une femme ou un homme.
Si, on l'accompagne de la même manière, mais en fait, dans ces ateliers qui sont ouverts à tout le monde, il y a beaucoup de femmes, vraiment beaucoup de femmes. Parce que je pense que c'est beaucoup plus féminin d'aller se poser sur une chaise et de raconter aux autres, de partager ce qu'on vit. En tout cas, c'est la sensation que j'ai et les chiffres le démontrent. Donc voilà, mais par contre, effectivement, quand il y a des hommes qui arrivent, il n'y a aucun souci, on les accueille de la même manière que les femmes. Moi, je suis très touchée par la douleur des hommes, des papas que je rencontre. Voilà, j'ai eu des hommes autour de moi qui ont été forcément endeuillés dans ma famille et je trouve ça vraiment très touchant de voir la manière dont ils expriment leur deuil et maintenant je suis très consciente que la société n'est pas à l'expression de la douleur. Vous citez Victor Hugo, finalement Victor Hugo il dit quelque chose, c'est un père qui parle et c'est ça aussi qui rend le discours pour moi très touchant.
C'est pour ça que j'en parlais. C'est pour ça que j'en parlais, parce qu'en plus on est au 19e siècle, hein. Alors certes on est dans la période romantique, mais malgré tout, c'est un père qui exprime son deuil. Qui plus est, c'est un père qui exprime deux deuils, hein, même s'il ne le dit pas. C'est le deuil de sa fille et le deuil de son pays. Parce que il écrit ce magnifique poème, justement, au mois de mai, lorsqu'il est en exil, il écrit ce vers superbe, le mois de mai sans la France, ce n'est pas véritablement le mois de mai. C'est certainement le plus beau vers et la plus belle déclaration d'amour qu'un homme puisse faire à sa patrie, dont il est en deuil, et également à sa fille. Ce qui fait qu'il ne peut pas aller. Il va apprendre d'ailleurs le décès de sa fille un mois après. Vous voyez, contrairement à aujourd'hui, on l'apprend très rapidement. C'est pour ça que, quand j'ai vu que vous alliez rue Victor Hugo, je me suis dit, il y a quand même quelque chose, il y a du sens, je me suis dit là. Oui, Philippe Subercaz.
Oui, toujours. très actif dans cette chronique. On est dans une radio chrétienne, ici à Radio Présence. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile pour un croyant de vivre un deuil ou par rapport à une personne qui n'a aucune croyance?
Alors... C'est une question, peut-être que je vais répondre avec des pincettes parce que la croyance, il y a plusieurs religions qui proposent un après, il y a la résurrection, il y a la réincarnation, etc. Je pense que quand les personnes croient à quelque chose qui se passe après, déjà, ça aide plus que quand on croit au fait que la mort c'est un coup près et qu'il n'y a plus rien derrière. Ça joue. La spiritualité de manière large aide. Après, dans l'espérance chrétienne, il y a effectivement quelque chose de très lumineux voilà. Je pense que effectivement ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé parce que je crois à la force de la prière et que j'ai eu la chance. On a eu la chance d'être entouré par nos familles, nos amis, mais aussi par la prière de beaucoup de gens. Donc, je vous dirais oui, et en même temps, je vous dirais, il y a aussi des gens qui s'en sortent très bien en ayant d'autres croyances que des croyances chrétiennes, en fait.
On va devoir s'arrêter là pour cette semaine. Le sujet est vraiment très intéressant. Donc, j'aimerais bien qu'on se retrouve la semaine prochaine. Mais je pense que vous êtes d'accord, Philippe.
Ah, tout à fait, complètement. On se retrouve la semaine prochaine avec Amélie Roulier pour
tout à fait. Je suis transporté.
Transporté. Même si le sujet, bien sûr, est un peu.
Il est transporté, même s'il il a un certain âge, quand même, hein, notre Diego National. Hein,
oui, ouais, mais il vole. Il survole.
Il est contemporain, on l'a dit déjà, de l'époque de Napoléon III. Hein, donc, du poème.
Même d'avant.
Oui, pardon, c'est vrai.
le père Fouard, qui vient se tenir. Juste, on se retrouve parce que le sujet est intéressant. Et j'aimerais que la semaine prochaine, avec vous, on puisse rentrer plus en détail dans ce que vous proposez, dans cette thérapie.
Voilà, au niveau d'Amélie Roulier, accompagnement du deuil, donc qui est la structure qu'elle a.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.